de l'étude de texte. Donc nous avons un tas de problèmes. Je suis allé un peu vite hier à la fin, et je m'en excuse, c'était pour essayer quand même de terminer un petit peu ce premier volet de l'exposé du Maharal que je me proposais, non pas de vous faire, mais que je me proposais que nous fassions ensemble, pour y réfléchir ensemble. Et nous avons évidemment vu un certain nombre de choses, à savoir que entre Yavan, la Grèce, et Israël, il y a une ambiguïté fondamentale dans la mesure où les deux s'occupent de sagesse, que la sagesse grecque est une vraie sagesse, et que la Torah est une vraie Torah, bien entendu, et que l'opposition vient du fait que, pour les Grecs, la Torah serait une sagesse particulière comme les autres sagesses, et que par conséquent, ils n'accepteraient pas qu'à la sagesse universelle, on puisse opposer une sagesse particulière supérieure à la leur. Bien que, là de nouveau ambiguïté, les qualités nécessaires pour acquérir la sagesse, que ce soit la sagesse humaine ou la sagesse divine, soient la même. Nous verrons bien entendu que ça ne suffit pas pour accéder à la Torah. Et on en a fait allusion déjà, on y a fait allusion déjà hier en montrant que il n'y a pas de Torah chez les nations qui pourtant ont cette qualité de haz, je vous ai remis sur le tableau, n'est-ce pas, le terme de haz, hazus, c'est-à-dire cette espèce de, à la fois de vigueur et de ténacité réunie. En fin de compte, il y a de nouveau ambiguïté dans le texte que nous avons vu, que la beauté de Japheth réside dans les tentes de Shem. C'est un texte, là aussi, nous y sommes passés rapidement hier, qui en réalité peut surprendre dans son interprétation telle que le Talmud l'interprète, et je pense que certains d'entre vous ont dû y être sensibles, même si on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que dit le texte? Que la beauté de Japheth réside dans les tentes de Shem. On s'attendrait à ce que la Gemara explique. Eh bien, faisons entrer la Grèce. Lorsque la Grèce va reposer dans Israël, ça sera parfait. Or, ce n'est pas du tout ça que dit le Talmud. Le Talmud a l'air de dire tout à fait le contraire. Ça veut dire que la beauté de Japheth repose à temps de Shem. Ce qu'il y a de plus beau dans la Grèce, c'est la langue. Et on arrive apparemment à une situation complètement inverse de celle à laquelle on s'attendrait dans un premier raisonnement. Ça veut dire en réalité que c'est Japheth, apparemment, la Torah qui traduit en grec, donc tout se passe comme si c'était Shem qui allait résider dans les tentes de Japheth. En réalité, ça rejoint des questions qui ont été posées hier, la différence entre la langue grecque et la philosophie grecque. Cela, je crois que cela s'explique ainsi. Lorsque on traduit la Torah en grec, ça veut dire que l'on dit la Torah en grec, qui est la langue humaine. Il est donc permis de parler de Torah dans la langue humaine, la langue par excellence humaine étant la langue grecque. C'est ce que nous faisons tous en ce moment, lorsque nous essayons d'étudier la Torah, et lorsque nous l'expliquons, nous essayons de parler Torah en termes de pensée universelle, en termes de langage grec. Par contre, et cela, c'est permis. Mais attention, lorsque je parle grec, c'est la Torah que je dois dire. Je ne dois pas parler de sagesse grecque. Par contre, si je devais faire l'inverse, c'est-à-dire parler hébreu pour enseigner la sagesse grecque, c'est cela l'interprétation qui serait tout à fait catastrophique. Si je devais me servir de la chokhma, de la sagesse grecque, et que cette sagesse grecque soit utilisée comme fondement, l'hébreu n'étant que le langage de la sagesse grecque, on arriverait à ce moment-là donc à une hérésie totale. Il y a d'ailleurs un enseignement du Rav Kook qui dit cela de façon très claire. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que Japheth réside dans les tentes existe, que la beauté de Dieu réside dans les... que Japhet réside dans les tentes de Shem, la beauté de Japhet n'est utile à Israël que tant qu'elle reste dans les tentes de Shem. Mais quand les Grecs entrèrent dans le sanctuaire, dans le temple, les huiles furent immédiatement souillées. Donc je crois que c'est extrêmement clair ce que dit le Rav Kook. Il est bien certain que lorsqu'on étudie la Torah et qu'on se sert simplement de la Torah devant un texte que l'on étudie et qu'on utilise à ce moment-là les contenus de la sagesse grecque pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Voilà un texte. Peut-être ça veut dire ceci. Alors on fait appel à des catégories de la psychanalyse, on fait appel à des catégories de la philosophie, non pas du langage philosophique, non pas du langage psychanalytique, mais des catégories de la pensée proprement dite, pour essayer d'expliquer la Torah. Alors on aboutit à des errements extraordinaires où la Torah est prétexte à projection d'une pensée grecque ou de ses propres élucubrations, aussi nobles soient-elles, aussi valables soient-elles, sur un texte de Torah, ce qui n'a strictement rien à faire avec l'enseignement de la Torah. Donc, je voulais attirer votre attention sur ce passage que le Maharal cite et qui me paraît très important, et dont l'explication, et ce n'est pas celle du Maharal, c'est l'explication du Talmud qu'a cité le Maharal hier, ça veut dire que la beauté de Japhet réside dans les tentes de Shem, ça ne veut pas dire que la philosophie grecque soit mise en hébreu, ça veut dire, si vous voulez traduire la Torah en grec, si vous voulez parler la Torah en grec, mais si vous parlez Torah, vous pouvez utiliser la langue grecque. Donc je crois que ça éclaire un petit peu les questions différentes dans la philosophie. Nous y reviendrons. Nous avons donc vu en conclusion que finalement, cette espèce d'opposition importante entre la Grèce et Israël se traduit dans les midrashim, tous les midrashim que j'ai cités et d'autres, par une formule curieuse. Quelle est la façon dont la Grèce a persécuté Israël? Quelle est la façon dont les Grecs ont voulu s'opposer à Israël? Eh bien, on aurait pu citer les édits cruels auxquels j'ai fait allusion hier. Non, on emploie une formule complètement, apparemment farfelue, en disant, inscrivez, les Grecs ont été des gens extrêmement rusés, extrêmement méchants, mais extrêmement astucieux, en disant, qui soit le Keren Hachor, chez Ein, l'Israël, Chelek, Beloke Israël, inscrivez sur la corne d'un bœuf, qu'il n'y a pas pour Israël de part Chelek, de part en Dieu. Alors voilà un texte qui ne veut rien dire. Il faut dire clairement, voilà un texte qui apparemment ne signifie rien. Et d'ailleurs, ce même texte dans la traduction du Midrash Rabbah que j'avais distribué avant-hier, vous verrez que le malheureux traducteur qui a traduit ce texte en anglais et qui fait un travail très sérieux, mis une petite note en disant, à propos de cette corne de bœuf, ça faisait vraisemblablement allusion à une demande des Grecs de répudier publiquement la Torah. Autrement dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a deux façons de faire. On peut, à propos de ce texte, dire, je vais réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, la corne, ça me rappelle quoi? Si j'ai une pensée marxiste, la corne, ça me rappellera ceci. Si je suis psychanalyste, alors là, on s'envole, j'en parle à connaissance de cause. On est philosophe ou historien, n'est-ce pas, on peut toujours essayer de trouver des rapports. Et puis, il y a une autre façon, c'est la Torah. Ce texte a été écrit par des chachamim, par des sages. Il a donc un sens, et ce sens, il faut le trouver. Et le Maharal, effectivement, et c'est pour ça que je dis, je ne suis que le serviteur du texte, le Maharal, nous avons la chance exceptionnelle d'avoir un texte, un cours, imaginez un cours donné, n'est-ce pas, en l'an 1600, puis le Maharal a repris ses notes de cours, il les a rédigées. C'est un cours, alors il a cité un Midrash. Ce Midrash, pour tous ses auditeurs, était aussi incompréhensible qu'il l'est pour moi, et je pense qu'il l'est pour la plupart d'entre vous. Inscrivez sur la corne d'un bœuf, Israël n'a pas de part au Dieu d'Israël, comme étant la façon d'exprimer tout l'ensemble de la contestation, le Maharal, pour répondre à cela, dire qu'est-ce que ça veut dire, choisit un texte qui n'a rien à voir apparemment avec cela. Et le fait que ce texte n'a rien à voir avec cela, et non pas que le Maharal l'explique lui-même, est très important. Il est certain qu'il y a un corpus, je parle grec, je parle latin, il y a un corpus de la Torah, et un texte ne peut pas s'opposer à un autre. Au contraire, lorsqu'on trouve un texte, que ce texte permet d'interférer un autre texte qui n'a vraiment aucun rapport, cela montre bien l'unité, l'unicité de l'enseignement. Le Maharal va donc expliquer ce midrash mystérieux par un texte du Talmud. C'est pas n'importe quoi, le Talmud. Et je vous propose très rapidement donc, de faire cela en trois étapes. Première étape, nous allons essayer nous-mêmes, comme des grands, de prendre le texte d'Isaïe, qui va être étudié donc, par le Talmud. Vous avez vu comment ce texte, ces versets d'Isaïe sont très courts, comment j'ai été obligé péniblement, lorsque j'ai écrit en grec français, péniblement, lorsque j'ai voulu le traduire, d'employer des périphrases qui vous d'ailleurs, n'est-ce pas, pour les hébraïsants, ne sont pas satisfaisantes. Quel est ce texte? C'est ces deux versets d'Isaïe, dans le chapitre donc 49, versets 14 et 15, nous allons les lire ensemble. Eh bien, « Vatomer Sion » et « Sion dit »« Azovani Hashem » le Seigneur m'a abandonné, « Vadonai Shechechoni » et « le Seigneur m'a oublié ». Deuxième verset, « Ha Sishka Isho Ulo » Est-ce qu'une femme, « Ha Sishka » n'est-ce pas cette interrogation, est-ce qu'une femme, « Ha Sishka Isho Ulo » est-ce qu'une femme oubliera, en français, oublierait son, c'est possessif, son nourrisson qu'elle allait, j'y reviendrai, Merachem ben Bitno, au point de ne pas avoir de compassion pour le fils de son ventre, Gam Ele Sishkarno, même celles-ci oublieront, Vonochi lo Eshkocher. Et moi, je n'oublierai pas. Alors, selon la méthode que j'ai l'habitude d'utiliser, je commence par essayer de regarder le texte honnêtement et avec l'étonnement devant un texte. Qui est un texte révélé, il s'agit du Tanakh, il s'agit d'Isaïe, un texte prophétique, pas n'importe quoi. Alors, il y a des mots déjà qui sont curieux. Bon, le début, pas de problème, apparent, Sion, il s'agit donc d'un dialogue entre la communauté d'Israël et Dieu. Sion dit, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Il y a une répétition. Une répétition qui est apparemment inutile, puisque abandonné, oublié ne sont pas entièrement synonymes, mais sont quand même parallèles. Et ensuite, on dit, eh bien, une question, est-il possible, là, qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est encore Israël qui parle, est-ce que c'est Dieu qui répond? Nous verrons cela. Pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce qu'une femme peut oublier Oulo? Alors, Oulo est un terme, Oul, le terme Oul, est un terme qui est un terme assez rare. C'est un terme assez rare en hébreu, puisqu'on ne le rencontre que deux fois dans tout le Tanakh. On ne le rencontre que deux fois dans Isaïe. Pour les grammairiens, il vient d'une racine oul qui signifie allaiter, d'où ma traduction le nourrisson qu'elle allait. En fait, en hébreu, on a d'autres termes, beaucoup plus courants, pour parler d'enfant. Il y a évidemment le terme olal, olel. Je parle uniquement en hébreu biblique, bien entendu. Et il y a le terme yonek. Tinok n'existe pas en hébreu biblique, mais yonek, du verbe yonak, qui signifie lui têter, le participe présent yonek, qui est utilisé 11 fois dans le Tanakh, est le terme couramment employé pour désigner le nourrisson. Il y a d'autres termes pour désigner enfant, mais le petit nourrisson, le nouveau-né, il y a un terme qui est le terme donc yonek. Par contre, oulo, est un terme qui est employé rarement, il n'est employé que deux fois. Donc ici, nous avons un terme rare. On peut se demander pourquoi ce terme rare a été utilisé par le texte. Merachem ben bitno. Merachem, c'est le verbe, vous connaissez, avoir pitié, avoir miséricorde. Mais je signale tout de suite que, comme vous le savez, il y a un mot, qui est le mot rechem. Rechem, c'est la matrice. Avoir pitié, c'est avoir un sentiment matriciel. Vous retrouvez ici cette relation de mère à enfant, et la miséricorde se dit rachamim, n'est-ce pas, c'est le duel de rechem. La miséricorde, c'est le sentiment matriciel par excellence. Alors, gam eile sishkarno. Là aussi, nous avons deux termes en hébreu pour dire ceci. Nous avons elle et eile. Elle est moins fréquent, eile est plus fréquent, et je vous signale, c'est important pour l'étude de tout à l'heure, que le mot « eile » est à la fois masculin et féminin. Je m'excuse pour les hébraïsants de dire des choses tout à fait simples. c'est le pluriel de zé ou de zos, celui-ci, celui-ça. Donc, on peut dire ceci ou cela. J'ai traduit celle-là parce que le verbe qui suit est au féminin, troisième personne du inaccompli du futur, de shachar oublié. Mais vous voyez que l'on passe d'un singulier au pluriel. Il y a là une difficulté qui n'a pas échappé aux commentateurs. On dit, est-ce qu'une mère oublierait son enfant au point, etc. Et même celles-ci oublieront. Il y a un pluriel, ce qui a amené Ibn Ezra, dans un commentaire que vous n'avez pas là sur ce texte, à proposer deux lectures différentes, ou bien même celles-ci, même des femmes de ce type, des femmes qui seraient des femmes arzor, comme il dit, cruelles, n'est-ce pas, qui seraient capables d'oublier. Ou alors, on peut lire autrement, dit-il, on pourrait peut-être prendre ça comme complément, gam eletif karno, même ces choses-là, c'est-à-dire à la fois oulo, son nourrisson, et ben bitno, le fils de son ventre, ces choses-là, elles oublieraient. Parce que le elé, on n'en a pas besoin comme sujet. Ça, c'est un pronom emphatique. Même elles, elles oublieront. Même celles-ci, elles oublieront. On aurait pu écrire tout simplement Tishkarno. Le elé étant est supplémentaire. Il est superfétatif, comme disent les critiques bibliques. Enfin, le onori, lo eshkocher. Là aussi, le onori est emphatique, et en plus, et moi, c'est un moi majuscule, donc il vient de Dieu ici, lo eshkocher, je ne t'oublierai pas. Eshkocher au féminin, parce que la communauté d'Israël, c'est Sion, c'est au féminin. Alors là, il y a une chose curieuse, c'est que si vous regardez les bons auteurs de la critique biblique, et je me réfère au Brown, Driver et Briggs, dictionnaire, qui est mon livre de chevet, j'utilise la Grèce à plein, mais ce sont les commentateurs traditionnels qui me donnent le sens. J'utilise d'abord la critique biblique pour voir comment ils ont regardé le verset. Ils ont fait un travail souvent considérable en nous donnant le nombre d'occurrences d'un mot dans le Tanakh, en nous donnant les différentes références. C'est un travail linguistique intéressant, mais qui évidemment ne doit pas être la base de l'étude. Eh bien, Brown, Driver et Briggs nous disent une chose extrêmement intéressante. Ils nous disent, voilà, quelle est la différence entre « ani » et « onori » ? Parce qu'il y a deux mots pour dire « je ». Il y a « ani » et « onori ». Eh bien, « ani » se met habituellement avec un verbe. Pour en dire « moi je fais »,« moi je mange », on dit « ani ».« Onori » avec un prédicat, avec un nom. « Moi le professeur »,« moi l'élève ». Ici, c'est l'inverse. Nous avons « onori » devant un verbe. Il y a donc là, si vous voulez, quelque chose de curieux. Je ne vais pas prolonger plus avant. Simplement, voici donc, c'est ce verset, ces deux versets d'Isaïe, que le Maharal utilise pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire inscrivez sur la corne d'un bœuf que vous n'avez pas de part au monde futur. Ben, je crois que c'est clair, n'est-ce pas, avec ce verset, nous avons tous compris la réponse. Alors, je vais vous poser une question préalable. Y a-t-il des Caraïbes dans la salle? Non, des Caraïbes. S'il n'y a pas de Caraïbes dans la salle, nous n'allons pas nous contenter de la Torah écrite, mais nous allons également étudier maintenant la Torah. Vous savez que les Caraïbes ne reconnaissaient pas la tradition orale et qu'ils ne reconnaissaient que le texte écrit. Alors, s'il y a des Caraïbes dans la salle qui sont capables de m'expliquer, à la lumière simplement de ces versets d'Isaïe, comment ces versets répondent au Midrash Rabbah, moi je veux bien, évidemment, avant d'avoir lu le Talmud et le Maharal, j'en étais incapable. Je pense que nous sommes tous à ce moment-là. Nous ne voyons pas comment ces deux versets d'Isaïe répondent à la question posée par le Midrash. Alors nous allons donc essayer de voir ça dans la Gemara. D'ailleurs, c'est ce que fait le Maharal. Le texte du Maharal que vous voulez bien reprendre, donc le bas de la page 12 dans laquelle nous étions arrêtés hier. Je n'ai plus de texte. Il y a eu 50 textes distribués hier. Je demande aux gens qui n'ont pas de texte de bien vouloir se déplacer pour se mettre l'un à côté de l'autre, suivre à deux dans le texte. De toute façon, je vais vous donner un autre texte. Vous n'aurez pas beaucoup besoin de cela. Je vais vous donner le texte ponctué de l'extrait Talmudique que Maharal utilise, simplement l'introduction, le Maharal dit, ou Pérouche, l'explication de ce Midrash, comme le Maharal a dit, inscrivez sur la corne d'un bœuf qu'il n'y a pas pour Israël de part, au Dieu d'Israël, qui malchus shelichis, omeres et Israël, qui sous al-keren achor, dafke, comme le dit le Maharal, n'est-ce pas, car ce peuple a dit à Israël, inscrivez sur la corne d'un bœuf, dafke, précisément sur la corne d'un bœuf et pas ailleurs, ou Pérouche. Et l'explication de ce midrash est la suivante. Elle se trouve dans le Perek Enomdim de la Gemara Brochos. Et comme évidemment dans le Maharal, les textes ne sont pas ponctués, nous avons là, et qu'il se trouve que ce texte existe dans l'édition de Steinsaltz. Je vous ai donc photocopié, je vais vous distribuer là, le texte que nous allons donc voir, au lieu de le voir dans le Maharal, nous pourrons le voir là, toujours quelqu'un de bien distribuer les textes. Nous allons donc le voir dans le texte même du Talmud de Broukhot. Tout le monde a un texte ? Alors le Maharal enchaîne directement. Le Maharal enchaîne ce texte que nous allons lire ensemble. Va tomer Tzion, Azovani Hashem, Vashem Sher Shocheron. Et Sion dit, comme donc la Gemara, chapitre 32b, arrive comme ça, au milieu du Talmud, là, une discussion. Et Sion dit, le Seigneur Hachem m'a abandonné, Hachem m'a oublié. Hainu, Azuvo, Hainu Shkuro. Voici, nous avons deux termes qui sont l'un, Azuva, c'est le terme de Azavani, c'est-à-dire voilà l'un. Il y a un premier terme qui parle d'abandon. Et voici, oubli. Il y a la répétition. Il y a la répétition, puisque les deux sont très voisins. Omar Reish Lakish. Un enseignement de Reish Lakish. Omro, Knesset Israël, Yifne Akodosh Boroku. Alors voilà comment Reish Lakish a lu ce texte d'Isaïe. Omro, Knesset Israël, Yifne Akodosh Boroku. La communauté d'Israël a dit devant HaKadosh Baruch Hu, devant le Saint béni il est, devant Dieu, de poivre les guillemets. Riboinoi Sheloilom, maître du monde. Odom nosse isho al ishto rishoino. Il peut arriver qu'un homme prenne une femme en plus de sa première femme. Zocher maase rishono. Il se souvient de l'épisode de la première femme. Ato, Azavtani, Ushachtani. Il y a deux, n'est-ce pas, le sens, si vous voulez, très rapidement, c'est le suivant. Il y a deux mots. Bon, il peut arriver, si Israël est infidèle à Dieu, eh bien, pourrait arriver que, est-ce qu'on peut dire, Rav Shalom, Dieu va se prendre quelqu'un d'autre en plus d'Israël, mais est-ce qu'il va oublier complètement Israël ? Toi, dit Sion Israël, tu m'as non seulement abandonné, mais tu m'as complètement oublié. Alors retenez bien le mot maasé, n'est-ce pas ? Ça veut dire par épisode, maasé, c'est une chose qui s'est faite, un épisode faute de mieux, n'est-ce pas ? Alors Dieu répond. Omar lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui répond, Biti, ma fille. Vous voyez, nous retrouvons ce dialogue, mère-fille ou père. Biti, ma fille. Shneim osor mazulot borossi borokiga. Alors, ce qui suit, je vais le traduire, mais nous ne l'étudierons pas, le Maharal non plus. Je lis seulement pour la cohérence du récit. Il s'agit d'une description de la façon dont le monde a été créé, le monde céleste. La description est faite en termes, avec des termes latins d'ailleurs, comme par hasard, en termes des latins d'organisation de camps militaires. Et donc, ce texte que je serais incapable d'expliquer d'ailleurs. Je ne l'ai pas étudié avec un maître, et donc je n'en connais pas le sens réel. Ce texte, simplement, je le lis parce qu'il est là, mais vous verrez que le Maharal non plus n'en a pas besoin pour l'explication du Midrash. Le sens qu'il faut retenir, c'est que Dieu explique, voilà, j'ai créé un monde, et un monde très complexe, et un monde très ordonné, et un monde avec un déterminisme parfait. Vous voyez, quand même le rapport avec la Grèce, n'est-ce pas ? Mais ce monde-ci, je l'ai créé, pourquoi ? Nous allons voir. Omar Loa Kodesh Boku, je reprends le texte de la Gemoura, Dieu dit, Biti, ma fille. Il répond gentiment. Il répond gentiment à Israël qui l'accuse de ce double abandon. Shneim Osor Mazolos Borotia. J'ai créé 12 constellations dans le firmament. Valkol Mazol ou Mazol Borosilo Shloshim Chayil. Et à chacune de ces constellations, j'ai créé 30 hôtes, 30 milices. Valkol Chayil Chayil Borosilo Shloshim Ligion. Et à chaque milice, j'ai créé 30 légions. Ligion, c'est un terme latin. Valkol Ligion, Ligion, Borosilo Shloshim Rahaton. Et pour chaque légion, j'ai créé 30 corps. Ce sont des termes d'ailleurs sur lesquels il y a discussion dans les dictionnaires. Donc ce sont encore une fois des termes sur lesquels je n'insisterai pas. Valkol Rahaton, Varaton, Borosilo Shloshim Karton. Et à chaque cohorte, j'ai créé, on ne sait pas exactement ça veut dire carton, des discussions, soit c'est une division du camp romain. Il y a des discussions dans le Talmud. Valkol carton de carton, borisilo, shloshim, gastro. Et pour chaque division, j'ai créé 30, là vous avez le terme latin castra, 30 camps. Valkol gastro de gastro, solisibo, shlosh, meos, de shishim, de chamisho, alfe, ribo, korve, kenechet, keneget, yomos, achamo. Et à chaque camp, j'ai attaché 365 milliers de myriades d'étoiles correspondant aux 365 jours de l'année solaire. Bon. Donc j'ai créé un monde extrêmement compliqué. La suite, « The Chulon, l'Oborossi et l'Obishvilech ». Et tout cela, je ne l'ai créé qu'en faveur de toi, Bishvilech. Souvenez-vous, « Bereshis Boro Elohim », en commencement en créa Dieu, et Rashi, citant le Midrashi, de Réchit, ça veut dire Bishvil Réchit, c'est en vue de Réchit. Réchit, le prémisse, c'est Israël, on en a parlé rapidement hier. Tout cela, je ne l'ai créé que en vue de toi, Israël. De Hat, Omar, et toi, tu oses me dire, Azartani, Ushartoni, tu oses me dire, je t'ai abandonné, je t'ai oublié. Et Dieu continue. Hasishkar isho ulo. Est-ce qu'une femme oublierait ulo? Mais alors, n'oubliez pas que la Gemara n'est pas ponctuée. Nous avons un texte ponctué qui vous permet de le lire, mais la Gemara n'est pas ponctuée. Et alors, le terme de que nous avons vu au tableau, lorsque nous avons eu Oula, dans la Gemara, nous pouvons bien entendu le lire aussi autrement. Nous pouvons le lire, non pas en mettant un point au milieu du Vav, mais en mettant un point au-dessus du Vav. Et nous avons à ce moment-là le terme Olo, Ola, pour ceux qui parlent en français, parce que moi je ne sais pas faire, qui est donc le sacrifice, l'holocauste. Donc, Dieu répond, est-ce que une femme oublierait Oulo, son nouveau-né? Pour l'instant, nous gardons l'explication de Oulo, mais en sachant que la Gemara peut lire aussi bien Olo. Omar à Kodesh Boroukou. Et Dieu continue toujours à parler Israël. Que l'oum, eshkar, olos, elim. Voilà comment Dieu explique ce verset qui vient de dire. Est-ce qu'une femme oublierait Oulo? Et lui, il lit donc, Dieu lit Olo. Est-ce qu'une femme, est-ce que moi, je pourrais oublier Olos, les holocaustes, les sacrifices, et Ilim, des béliers, ou Fitré, Rochomim, des prémices, mot à mot, de ceux qui ouvrent la matrice, le nouveau-né, c'est celui qui ouvre la matrice. Vous voyez comment la Gemara retrouve ici notre Rechem de Isaïe. Fitré Rechem, Fitré Rachamim, ceux qui ouvrent les matrices, les premiers-nés. Je reprends depuis le début pour la cohérence, la quantitation. Hatishkaricho Olo, est-ce qu'une femme oublierait Olo ou Olo? Omar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, que l'Omeshkar, Olos Eilim, Ositre Rochomim, Sheikraft, le Fonaï Bamidbor, est-ce que j'oublierai les sacrifices, les holocaustes des béliers et des premiers-nés des animaux, de ceux qui ouvrent les matrices, que tu as offert en sacrifice devant moi dans le désert? Alors le dialogue continue. Nous sommes toujours dans les deux versets d'Isaïe. Omro le Fonov, alors Sion, Israël répond à Dieu. À ce moment-là, Sion est effrayé. Omro le Fonov, Ribono Sheloilom, maître du monde, Hoil, The Ein Shirho Lifnet Isech Votro, puisque Dieu dit, est-ce que je peux oublier ce qui s'est passé dans le désert? Jamais je n'oublierai les sacrifices m'apportés. Donc, s'il n'y a pas d'oubli chez toi, si tu n'oublies rien, si tu n'oublies pas, cela, ce houlot qui est à la fois houlot et holo, si tu n'oublies pas, s'il n'y a pas la notion d'oubli, s'il n'y a pas shirro, s'il n'y a pas d'oubli devant toi, devant le trône de ta gloire, shomo, lo sishkach li maase ou egel, eh bien peut-être que tu n'oublieras pas non plus maase, le mot maase, n'est-ce pas tout à l'heure, l'épisode du veau d'or dans le désert. Si tu dis, je n'oublierai pas, lorsque vous m'avez été fidèle, vous avez apporté des sacrifices, que vous êtes montré mes fils, eh bien peut-être tu n'oublieras non plus lorsque j'ai fait le veau et que par conséquent j'ai cessé d'être reconnu vis-à-vis de son père puisque je ne suis plus reconnu comme lui.